France Info.
Qui fait l'état des lieux pour France Info sur une situation toujours inquiétante ce matin dans les départements de l'Ouest qui restent en alerte face à la montée des eaux. Il est 6 heures. Un défilé globalement dans le calme hier à Lyon, mais sous tension pour la marche pour Quentin. La préfecture signale à la justice des saluts nazis et des insultes homophobes et racistes signalées dans le cortège. Un nouveau marathon pour Emmanuel Macron hier au Salon de l'Agriculture pour la première journée. 12 heures passées par le président avec les exposants. Donald Trump se donne une dizaine de jours pour décider si un accord est possible avec l'Iran. Mais l'armée américaine déploie des moyens très exceptionnels en ce moment au Moyen-Orient. Et l'heure d'un premier bilan au Jeux d'hiver de Milan-Cortina avant la cérémonie de clôture ce soir. Bilan doré pour le biathlon français. Derrière de larges portraits de Quentin Derans qui est encadré par un très important dispositif policier, plus de 3000 personnes ont défilé hier après-midi à Lyon pour demander justice pour ce militant identitaire battu à mort par des membres de l'ultra-gauche. Le cortège a défilé dans un calme relatif mais sous tension politique. Faustine Calmel y était pour France Info.
En tête de cortège, les manifestants portent une banderole bleu foncé, l'extrême gauche tue, et depuis leur camion, les intervenants, ici Raphaël Emma du groupe nationaliste Ténessoun, fustigent les politiques au pouvoir.
Les centristes, les écologistes, les socialistes, les républicains de Pontin, tous ces gens-là qui se sont alliés à un moment avec l'extrême gauche ont contribué à la banaliser et à banaliser sa violence.
Christian est venu en souvenir de Quentin Derancq, mais aussi pour dénoncer ceux qu'il tient pour responsables du climat actuel.
J'espère que le peuple va réagir parce qu'il commence vraiment à y en avoir marre, hein, que ce soit les facs, que ce soit au gouvernement, à l'Assemblée nationale, on en a marre de ce cinéma de la gauche et de l'extrême gauche.
Les slogans dans la manifestation fustigent la France insoumise et ses dirigeants. Au bord du défilé, Paul s'est arrêté. Ce sexagénaire regarde avec crainte défiler la foule.
Je ne comprends pas comment un phénomène qui est un phénomène de borne qui se bagarre a pu être monté en épingle comme ça. La montée de la droite et de l'extrême droite me désole. On a un espèce de retour en arrière de l'histoire qui fait peur.
Hier soir, la préfecture du Rhône a annoncé saisir la justice pour au moins 2 saluts nazis et des insultes racistes et homophobes pendant la manifestation.
Faustine Calmel à Lyon pour France Info. La plus grande ferme de France a donc ouvert ses portes hier au Parc des Expositions à Paris, un 62e salon de l'agriculture inauguré par Emmanuel Macron. Une longue journée sans accrocs dans les allées. Sur place pour France Info, Hélène Terzian.
Un marathon de 12 heures qui s'achève au stand des brasseurs.
Le président peut sereinement trinquer, entouré d'un dispositif de sécurité XXL.
Il n'y a eu aucune tension, aucune annonce. Le dialogue s'engage de manière apaisée avec les représentants agricoles ici, avec la filière volaille qui demande à lever les entraves pour construire plus de poulaillers.
On a évalué les besoins à 2200 poulaillers pour les 10 prochaines années.
C'est un peu la méthode Notre-Dame ou Jeux Olympiques.
On
ne peut pas mettre plus de temps à faire un poulailler qu'on a mis à rénover Notre-Dame.
Méthode Notre-Dame chère au président, mais plus difficile à appliquer avec les syndicats. Malgré une ambiance bon enfant, la Confédération paysanne boycotte la rencontre avec le président. La coordination rurale, réputée proche de l'extrême droite, accepte finalement. Emmanuel Macron le sait, il faut rassurer le secteur, notamment après la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur.
On a besoin dans le contexte international de protéger notre agriculture. C'est ce qui fait qu'on défend les clauses sauvegarde, les clauses miroirs, c'est-à-dire qu'on veut au fond que les mêmes règles du jeu s'appliquent à ceux qui veulent importer chez nous.
Le salon, son avant-dernier en tant que président, ne doit pas être, dit-il, un moment de division, mais un moment de fierté.
Hélène Terzian du service politique de France Info. 9 départements de la moitié ouest de la France restent ce matin en vigilance de Météo France pour les crues, dont 3 en rouge, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. Et des militaires sont appelés en renfort. En Charente-Maritime, 3 camions militaires verts des TR-2000 sont arrivés hier à Courcoury, commune de 700 habitants. Les routes d'accès au village sont toutes impraticables. Jusque-là, les habitants pouvaient emprunter le tractobus mis en place par la mairie ou des zodiacs de la SNSM. Mais ces camions vont faciliter le quotidien des habitants les plus isolés. Sur place, à Courcoury, pour France Info, Léa Bouquet.
Adeline est une des premières avec sa fille à monter à bord de ces grands 4x4 verts. Elle avoue être soulagée de l'arrivée de ces camions.
On est content, surtout pour les personnes qui se sont occupées de nous faire traverser toute la semaine et qui vraiment ont cravaché. Et c'est épuisant, quoi.
Épuisant aussi quand il faut adapter ses horaires de travail aux traversées. Adeline est sage-femme sur une commune voisine.
Évidemment, je pouvais consulter beaucoup moins tard le soir pour être sûre de pouvoir prendre la navette pour rentrer ici, quoi. Donc, on s'adapte, les patientes comprennent.
Elle va pouvoir retrouver des horaires à peu près normaux puisque les camions font la navette de 5h30 du matin à 20h le soir. De quoi faciliter la vie aussi de Florian. Il vient de Vaux-sur-Mer régulièrement apporter des courses pour son papa bloqué à Courcouré.
Mon papa, il attend au bout, là. Donc on fait les navettes exprès. Puis là, l'allée, lui, il était tout mouillé. Là, il ne sera pas mouillé. Puis c'est rassurant, en plus, d'être avec des militaires, on va dire.
Un dispositif rassurant, donc, qui va venir en aide.
À 365 personnes qu'on transporte par jour.
Éric Bigot, maire de Courcouré.
Ah, c'est un dispositif exceptionnel, mais nous sommes sur une commune rurale. Hein. La moitié de la population travaille. Hein. La seule sortie, c'est de passer maintenant par le camion.
Et les trois camions militaires feront aussi leur rentrée scolaire demain. Ils feront traverser les 40 collégiens et lycéens de Courcouré.
Léa Bouquet d'ici La Rochelle pour France Info. Il est 6h06, à deux jours de la date symbolique des 4 ans de guerre en Ukraine. Des explosions ont secoué la capitale Kiev tôt ce matin après le déclenchement d'une alerte aérienne. La capitale visée, selon les autorités, par des missiles balistiques. Les États-Unis vont-ils lancer une attaque contre l'Iran dans les prochains jours? Le président américain s'est donné vendredi 10 à 15 jours pour décider si un accord avec l'Iran sur le nucléaire était possible ou s'il allait falloir recourir à la force. Et la menace d'une intervention militaire est plus réelle que jamais au vu du déploiement de l'armée américaine au Moyen-Orient, une armée qui dispose déjà d'ailleurs de plusieurs bases dans la région. Ajira Mohamed.
L'armée américaine a des dizaines de milliers de soldats postés dans ses bases militaires à travers le Moyen-Orient, mais si elle lance une offensive contre l'Iran, elle ne devrait pas envoyer de troupes au sol. Tout se passerait depuis la mer et dans les airs, avec une quinzaine de navires de guerre déployés en ce moment, dont 9 destroyers, 6 frégates et, chose rare, 2 porte-avions dépêchés en même temps. Le Gerald Ford a été aperçu en mer Méditerranée vendredi après avoir traversé le détroit de Gibraltar. Il pourrait arriver au large d'Israël demain ou après-demain, ou alors, autre scénario, poursuivre sa route pour la mer d'Arabie, au sud de l'Iran, où le Abraham Lincoln est déjà positionné, lui, depuis fin janvier. Sur chacun d'entre eux, une centaine d'avions de combat, mais aussi ravitailleurs, sont prêts à décoller, sans compter tous les autres disponibles sur les bases américaines installées aux Émirats Arabes Unis, au Qatar ou encore en Arabie Saoudite. Sauf que tous ces pays ont fait part de leur réticence auprès de Washington. Ils ne souhaitent pas que leur espace aérien soit survolé pour lancer une attaque contre l'Iran, par peur des représailles et d'un conflit généralisé.
Ajira Mohamed de la rédaction internationale de Radio France. France Info, il est 6h07. L'heure est déjà au bilan aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Bilan doré pour le biathlon français au sommet de son art qui referme la compétition avec 13 médailles. Record presque doublé par rapport à 2022. La France règne sur le biathlon mondial et c'est bien parti pour durer. Aux Jeux d'hiver pour France Info, Fanny Le Chevestrier.
Et ils peuvent s'époumoner les supporters car ce que viennent de faire les biathlètes tricolores est phénoménal. 13 médailles sur 33 possibles, sur les 11 titres en jeu durant la quinzaine, 6 sont pour les Bleus. Des résultats au-delà des espérances de Stéphane Boutiot, le patron du biathlon français.
Franchement, dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas imaginé des résultats pareils. Ouais, c'est dingue, incroyable.
Et ce n'est pas Océane Michelon, 23 ans, déjà 3 médailles olympiques qui dira le contraire.
C'est mes premiers jeux, je suis énormément reconnaissant de la chance que j'ai de vivre cette aventure, de partager ça avec cette équipe, avec tous les techniciens qui font un travail de fou pour nous permettre d'être à ce niveau-là. Je suis fier de nous.
Car la performance est bien collective, avec pas moins de 6 biathlètes différents médaillés sur les individuels. De quoi être optimiste pour l'avenir, promet Stéphane Boutiot.
Ah, j'irai pas jusqu'à dire inépuisable, mais on a de la réserve, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, c'est une génération encore plus jeune qui arrive. Le biathlon français a un bel avenir devant lui.
Les Français qui, en quelques années, ont fait du biathlon leur jardin. Hier à Anterselva, ils y ont même planté leur drapeau au milieu de la piste, en donnant rendez-vous en 2030 pour les Jeux à la maison.
Fanny Le Chevestrier au jeu de Milan-Cortina pour France Info. Le biathlon français qui sera à l'honneur ce soir pendant la cérémonie de clôture à Vérone, puisque Lou Jean Monod sera porte-drapeau de la délégation tricolore aux côtés du fondeur Matisse Desloges. Cérémonie de clôture donc, et les derniers titres à mettre en jeu aujourd'hui, notamment la finale du hockey sur glace à la clé, l'une des médailles d'or les plus prestigieuses, finale de rêve du hockey entre les deux poids lourds de la discipline, les États-Unis et le Canada. Et à 6h09, la première tendance météo de ce dimanche avec Patricia Charbonnier. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Un grand classique pour aujourd'hui, hein, le soleil. tiens, c'est pour le sud, et la pluie, tiens, c'est pour le nord.
Bah tiens, on va commencer par le soleil pour la moitié sud du pays dès ce matin, après dissipation quand même de quelques brouillards, notamment le long de la Garonne. Sinon, c'est un ciel parfaitement dégagé. C'est une météo printanière. Attention, dans les Alpes, le risque d'avalanche est encore très marqué. Et sur la moitié nord du pays, le temps reste encore gris et humide, avec une nouvelle dégradation pluvieuse qui circule en Manche ce matin, mais qui va déborder cet après-midi vers la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est et dans la soirée sur l'Île-de-France. Et puis Météo France prévoit un petit peu plus d'éclaircies sur les pays de la Loire, le centre-Val de Loire, la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc de la douceur, 22 degrés cet après-midi à Perpignan, 17 à Toulouse, 14 à Paris et 12 à Brest.
Patricia Charbonnier, on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes, juste avant 6h30 pour une carte météo complète.
L'info sur les assistants vocaux, c'est France Info.
L'info en une minute.
Les manifestations contre les violences faites aux enfants.
France Info peut vous le confirmer ce soir.
À tout moment, il vous suffit de demander.
Mais France Info.
L'info en bref, 11h21.
Éruption probable du Piton de la Fournaise.
Sur les assistants vocaux.
France Info.
Pas juste l'info, l'info juste.
Sa réaction a surpris même ses plus proches conseillers après le camouflet de la Cour suprême qui retoque ses droits de douane. Donald Trump impose de nouvelles taxes. Explication dans les prochaines minutes avec l'un des correspondants de France Info aux États-Unis. On fait d'abord le point de la situation sur les crues dans l'ouest de la France avec l'une des responsables de Vigicru.
France Info, 6h-7h, Jean-Christophe Martin.
Il est 6h11, 9 départements de la moitié ouest de la France restent en vigilance de Météo France pour les crues, dont 3 en rouge, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. Stéphanie Pitch est membre de l'équipe de direction de Vigicru. Elle faisait l'état des lieux hier soir sur France Info.
Eh bien, dans l'ouest, les crues se poursuivent et encore pour quelques jours, hein, puisque les tempêtes ont frappé l'ensemble de la France, mais particulièrement l'ouest de la France ces derniers jours, voire semaines. Et toute cette eau accumulée a beaucoup de mal à s'évacuer vers la mer. Et donc, on atteint des plateaux hauts qui vont rester hauts pendant encore plusieurs jours avant de redescendre progressivement. Donc, c'est toujours préoccupant dans ces départements-là. Mais c'est aussi préoccupant dans 71 départements en tout qui connaissent des crues, alors de moindre importance, hein, mais la vigilance jaune sur une rivière, c'est déjà un danger.
Mais pour ce qui nous concerne dans l'immédiat, ces crues dans l'ouest, est-ce qu'il y a des endroits qui suscitent plus d'inquiétude que d'autres?
Effectivement, les cours d'eau placés en vigilance rouge, hein, donc la Maine et la Loire dans le secteur d'Angers et en Loire-Atlantique, la Charente aux alentours de Saintes, sont des endroits qui connaissent des crues très importantes, hein, voire exceptionnelles, et qui concernent énormément de nos concitoyens qui ont dû évacuer leur maison.
Alors, on va s'arrêter sur le cas d'Angers, où le niveau de la Maine vient d'atteindre son pic à 6,39 mètres. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le maire Christophe Béchu. Il parle d'une légère décrue à venir. Est-ce que vous avez une idée plus précise de comment les choses vont se passer dans les heures, les jours à venir sur place?
Eh bien, la décrue sera vraiment très lente, hein. On parle de quelques centimètres par heure seulement qui vont baisser. Donc la décrue, il ne faut pas l'attendre avant plusieurs jours, franche décrue.
Qu'est-ce qui empêche justement une décrue plus rapide?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Dans la région d'Angers, c'est un peu une cuvette qui doit s'évacuer dans la Loire, qui elle-même est très haute. Donc, il faut que la Loire ait le temps de redescendre, de s'évacuer vers la mer, pour que la Maine puisse enfin s'écouler dans la Loire. Donc, c'est ce qui explique cette décrue très, très lente, ainsi que les sols qui sont vraiment gorgés d'eau et qui, comme une éponge, rendent progressivement leur eau à chaque fois que l'eau s'évacue un peu plus vers l'aval.
Vous mentionnez tout à l'heure la ville de Saintes en Charente-Maritime. À Saintes, la crue de la Charente, elle se fait attendre. Elle devait avoir lieu aujourd'hui. Elle était attendue aujourd'hui. C'est pour quand finalement?
Alors le maximum, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de pic, c'est vraiment un plateau haut avec là encore quelques centimètres qui montent ou qui descendent. Donc c'est dans les prochaines 24 heures, on espère avoir atteint le maximum du niveau aux alentours de 6,60 mètres.
pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez de plateau haut, ça veut dire que derrière, la décrue sera extrêmement lente. Ça veut dire que, en fait, le niveau de l'eau peut monter à nouveau. Expliquez-nous.
Tout à fait. La décrue sera aussi lente que la montée, voire peut-être plus. Donc, on s'attend à avoir des niveaux très, très hauts pendant encore plusieurs jours.
C'est des jours, c'est pas des semaines.
On espère que ce sera pas des semaines.
On est en pleine accalmie au niveau des pluies dans l'Ouest. Est-ce qu'on a une idée si ça va durer et comment expliquer que les crues se poursuivent alors qu'il pleut moins ou plus du tout ?
Eh bien, les crues, c'est vraiment une accumulation de toute la pluie qu'on a connue hein, depuis quelques semaines. Dans ces régions-là, le sol est assez plat, les rivières sont très peu pentues et donc l'eau met beaucoup de temps à s'écouler vers la mer. En plus, elles sont réalimentées par ces sols qui sont gorgés d'eau. Donc, il faut vraiment que toute cette eau finisse par partir à la mer et c'est très lent. Donc, c'est pour ça que malgré l'accalmie qui, d'après Météo France, devrait durer jusqu'au moins au milieu de semaine, on a encore des hausses sur certains cours d'eau, plutôt à l'aval des cours d'eau. À l'amont, les décrues sont plus franches, mais à l'aval, tous les affluents confluent et continuent de faire monter les niveaux d'eau, comme on voit sur la Charente, par exemple.
Est-ce qu'on a une idée du moment où la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime vont sortir de cette vigilance rouge, le niveau maximum, ou c'est trop tôt pour le dire ?
C'est encore un peu tôt pour le dire, parce qu'à ces niveaux-là, on ne sait pas exactement quel sera le taux des crues, hein, le nombre de centimètres par jour que ces cours d'eau vont perdre. Donc, on espère que c'est l'affaire de quelques jours, mais malgré tout, bien que éventuellement on sera en dessous des niveaux rouges et on redeviendra en niveau orange, ce sont quand même des niveaux très élevés qui peuvent impacter la vie de nos concitoyens.
Stéphanie Pitch de l'équipe de direction de Vigicru, elle répond sur France Info à Marc Potvin.
6h17 sur France Info, il fait 6 degrés à Lyon.
Donald Trump persiste et signe en réponse au désaveu de sa politique commerciale par la Cour suprême américaine. Il ne s'avoue pas vaincu, mais au contraire, il accélère sur les droits de douane. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Vous êtes l'un des correspondants de France Info aux États-Unis à Atlanta. Alors d'abord annoncé à 10% pour tous les échanges commerciaux avec le reste du monde, les nouvelles taxes voulues par Donald Trump passeront subitement et en 24 heures de 10 à 15%. Annonce faite par le président sur ses réseaux sociaux, ce qui a d'ailleurs surpris jusqu'au sein même de son administration.
Oui, le New York Times souligne que Donald Trump a pris de court lui-même la plupart de ses conseillers à la Maison-Blanche en annonçant ses 15%. 15% comme une réponse directe à la trahison de la Cour suprême, souligne de son côté le vice-président J.D. Vance. La loi lui permet de le faire par décret, mais cela reste temporaire. L'administration est donc en train d'étudier l'ensemble des textes de loi qui lui permettraient d'enclencher de nouveaux droits de douane. Un processus qui s'annonce long et instable. Des élus républicains soulignent qu'un bras de fer permanent avec la Cour suprême n'est pas une stratégie viable à long terme. L'entêtement de Donald Trump donne également de nouvelles surfaces d'attaque aux démocrates, qui soulignent que Donald Trump s'entête, je cite, à vouloir faire les poches du peuple américain en imposant ainsi une taxe mondiale à 15% qui s'appliquera sur tous les produits essentiels achetés par les familles américaines.
Alors une nouvelle taxe s'est présentée comme une réponse à la Cour suprême, mais ça peut potentiellement remettre en cause aussi des accords commerciaux que Donald Trump avait passé avec le reste du monde.
Oui, car la Cour suprême a retiré à Donald Trump cette arme de dissuasion économique, cette menace de droits de douane sans aucune limite qu'il agitait et utilisait comme levier pour négocier des accords commerciaux avantageux. L'administration Trump redoute désormais que certains pays tentent de se désengager de ces accords, puisque la Cour suprême a rendu illégaux tous ces tarifs douaniers imposés directement par la Maison-Blanche. Ces menaces douanières étaient également un outil puissant de la diplomatie de Donald Trump, comme il le souligne lui-même, pour imposer ses vues à l'étranger, comme par exemple avec le Mexique, où un contrôle migratoire renforcé a été obtenu à la frontière avec les États-Unis en agitant une menace de 25% de droits de douane. Ces 15% de taxation et la promesse de nouvelles taxes à venir sont donc le moyen de maintenir un minimum de pression économique pour de prochaines négociations.
Laurent Kramer, correspondant de France Info à Atlanta. Dans un instant, on fait un tour dans les allées du Salon de l'agriculture, déjà très fréquenté par le public pour sa première journée hier. Et d'abord, l'info en une minute.
Et vous, la Mini Cooper, vous l'aimez pourquoi? Sa conduite, son look so British? Avec une dose de style et d'innovation en plus, la Mini Cooper électrique reste plus iconique que jamais. Rouler dans une icône, ça n'a pas de prix, surtout à ce prix-là. Profitez de la Mini Cooper E-Finition Blackyard des 320€ par mois. Premier loyer de 320€ après déduction de la prime C2E de 345€. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2026. Si accord BMW Finance selon stock disponible. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Info. 6h-7h.
L'essentiel de l'actualité à 6h20, c'est avec Pierre Boudias. Bonjour Pierre.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous.
Le premier titre de ce dimanche, pas d'affrontement mais des saluts nazis hier à Lyon.
Ils ont été observés lors de la marche d'hommage à Quentin Derenque, selon la préfecture qui annonce qu'elle va saisir la justice. Si la marche s'est déroulée dans le calme, les autorités rapportent également des insultes racistes et homophobes lors de ce rassemblement. Le ciel se calme mais l'eau continue de monter dans l'ouest. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Charente-Maritime resteront en vigilance rouge tout le week-end pour risque de crue. À Angers, le pic a été atteint hier en fin d'après-midi, mais la mairie dit ne pas avoir de visibilité sur le rythme de cette décrue. Kiev, secouée par de fortes explosions la nuit dernière, attaque russe sur la capitale ukrainienne à l'aide de missiles balistiques selon les autorités. Une policière a également été tuée à Lviv, dans l'ouest du pays. Des bombardements qui interviennent à deux jours du 4e anniversaire du début du conflit. Et puis l'Italie va dire au revoir aux Jeux Olympiques ce dimanche, ultime journée à Milan-Cortina. Et peu de chances de médaille pour les Bleus. Deux Françaises engagées sur le 50 km en ski de fond. Malgré tout, la cérémonie de clôture aura lieu à 20h30 à Vérone.
France Info.
Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes hier à Paris et pour la première fois depuis sa création en 1964, les vaches ne sont pas là au nom du principe de précaution à cause de l'épidémie de dermatose, mais les visiteurs peuvent se consoler avec les 3500 animaux qui eux sont bien au rendez-vous sur place, porte de Versailles à Paris. Pour France Info, Benjamin Ely.
Voilà, pavillon 4. Avec la ferme pédagogique, beaucoup de monde dans les allées, beaucoup de succès pour ce pavillon.
Monsieur l'âne.
C'est un âne, bravo.
Monsieur l'âne.
Monsieur l'âne, pardon. Il y a des moutons, il y a les lapins.
Lapins.
C'est des lapins qui vont faire entre 2,5 kg, 3,5 kg.
Allez-y, extasiez-vous.
Oh, qu'elles sont belles, avec leur belle fourrure.
On est devant une bergerie.
Vous pouvez observer des moutons tonnes. Martode.
On est chaque année?
Oui, tous les ans, ouais, avec les enfants et les petits-enfants. Ouais.
Ah ouais. Vous êtes parisien?
Oui.
Oh, pas trop frustré de ne pas avoir de vaches cette année?
Ah bah on en a vu, mais elles n'étaient pas réelles. Hein.
Ah, en hologramme, j'ai vu.
Ouais, ouais. Bah, ça permet justement de découvrir un peu plus les autres animaux.
Vous comprenez surtout qu'il y avait un contexte sanitaire.
Oui, bah, tout à fait. Alors là, c'est, on ne prend pas de risque.
Il s'agit d'une Norfolk terrier.
Là, on est devant le ring canin où se déroule un concours canin. Plus de 1000 chiens présents cette année au Salon de l'Agriculture. Il y a des dizaines de personnes là autour.
Moi, je connais plus particulièrement le terrier brésilien.
Si on parle de son pelage, de sa robe, on dirait un peu la robe d'une vache.
Oui, voilà.
Des taches comme d'une vache.
Nous, aujourd'hui, on rend doublement justice aux vaches. C'est un peu un chien vache, mais c'est pas une peau de vache.
Visiteuse, un peu visiteuse.
Alors, j'accompagne quelqu'un qui expose.
Caroline. Alors, il y en a un autre là-bas, terrier brésilien. Lui, si je te mets de la musique, il chante.
Ah ouais, je veux bien.
Donc, Sapio, le chien chanteur. Si on va sur la playlist qui s'appelle Sapio.
Sur du Lana Del Rey, la classe.
Ah ouais, non, il a des bons goûts musicaux quand même. Sapio ?
Et donc il a un compte Instagram.
Il a un compte Instagram, Sapio. Ouais. Sapio.terrierbrésilien. 446 followers.
Ouais, mais sa carrière va exploser.
Mais sa carrière va exploser.
Allez, on remet la musique. Ah ouais, il a de bons aigus, hein.
Ouais, ouais. Petit chien, tu chantes très bien, mon amour. Tiens.
Benjamin Ely avec les chiens chantants du Salon de l'Agriculture pour France Info. Et il a un compte Instagram, le chien. Alors justement, à 6h24, c'est l'œil de Julie, le coup d'œil sur les réseaux sociaux.
L'œil de Julie à présent, l'œil de Julie Vialon. Bonjour Julie.
Bonjour.
Et si, au lieu d'alléger notre charge de travail, l'IA nous en rajoutait, eh bien c'est la conclusion d'une étude menée par une entreprise américaine.
Et oui, c'est vrai qu'au départ, la promesse de l'intelligence artificielle, c'est de faire à notre place des tâches répétitives ou de nous faire gagner du temps. Dans mon cas, elle pourrait m'aider à croiser des sources, à résumer des documents ou à trier des informations, par exemple. Et c'est ce qu'ont voulu vérifier les chercheuses d'une école de commerce en Californie. Pendant 9 mois, elles ont observé 200 employés dans une entreprise technologique américaine, des employés qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle s'ils le souhaitent. Et ce qu'elles ont observé, c'est que l'IA n'a pas allégé leur charge de travail, au contraire, elle l'a plutôt intensifiée.
Comment ça s'explique ?
Eh bien, on peut dire que l'IA nous fait pousser des ailes, galvaniser. Certains employés ont commencé à prendre en charge des tâches plus larges, plus complexes qu'avant. Par exemple, des designers se sont mis à coder avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ça leur a donné l'impression d'être plus compétents, plus autonomes, mais ça a aussi étendu ce qu'on attendait d'eux. Les ingénieurs ont dû passer plus de temps à relire, vérifier, corriger le travail généré par l'IA.
Et Julie, l'intelligence artificielle s'infiltre véritablement partout.
Oui, selon l'étude, elle a créé une sorte de flou entre temps de travail et temps personnel. C'est tellement facile que des employés se sont mis à l'utiliser dans des moments de pause. Pendant le déjeuner, par exemple, pendant des réunions ou en attendant d'autres tâches. En gros, le travail se prolonge sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et puis, l'IA les a poussés à faire plein de choses en même temps, parce qu'elle facilite plusieurs tâches simultanées. Au lieu de concentrer leur attention sur une chose à la fois, les salariés basculent sur plusieurs tâches. Ça augmente l'impression de productivité, mais surtout leur charge mentale. Et ça, c'est trompeur. Ça augmente les risques de fatigue cognitive et de burn-out, jusqu'à faire baisser parfois la qualité du travail.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela ?
Les chercheuses recommandent plusieurs choses. D'abord, structurer la pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, avec des règles, des normes, une routine autour de son utilisation. Mettre en place des pauses aussi, pour éviter que les salariés ne travaillent tout le temps. Et puis, favoriser les interactions humaines et le travail collaboratif, pas juste les tâches individuelles assistées par intelligence artificielle. Et puis en plus, si je peux me permettre, l'IA n'apporte pas encore de croissant le matin.
Pas encore, mais ça va venir. L'œil de Julie Vialon sur France Info, bien sûr.
Julie Vialon avec Renaud Blanc à retrouver sur franceinfo.fr. Et à 6h27, c'est l'heure de la playlist de France Info, les coups de cœur musicaux du service culture chaque dimanche. Ce matin, Yann Bertrand a choisi de prendre le chemin de l'Anatolie avec un groupe au succès qui dure.
Qui aurait pu imaginer qu'un groupe formé à Amsterdam, rendant hommage au patrimoine musical turc, pouvait toucher autant de monde ? C'est le pari réussi du groupe Altıngün qui vient de sortir son 6e album, Garip. Yatarken kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar den gizli gizli den gizli gizli. Après avoir fait danser les foules sur des sonorités irrésistibles ces dernières années, on arrive ici en territoire plus profond, plus varié. L'idée de ce disque est un hommage au chanteur anatolien Neşet Ertaş, décédé en 2012 avec 10 morceaux de son répertoire totalement retravaillés dans des genres très différents. La beauté des traditions, le métissage irrésistible de la musique d'Altıngün a séduit la France il y a presque 10 ans. Avec une mini-tournée commençant par Paris et deux Trianon les 10 et 11 mars prochains, ce 6e album n'est pas de nature à rompre le charme.
Et Yann Bertrand pour la playlist de France Info avec le groupe Altıngün. Dans une minute, un nouveau journal et d'abord la météo.
BMW. 3 notifications, 10 posts, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M-Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M-Sport, prenez le volant de votre BMW des 290 euros par mois, sans apport.
Offre valable pour une BMW 1 16 M-Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
La météo à 6h29 avec Patricia Charbonnier et une carte qu'on connaît bien, du soleil et de la pluie. Le soleil au sud, la pluie sur le nord.
Du plein soleil même sur la moitié sud du pays aujourd'hui après dissipation de quelques brouillards, en particulier le long de la Garonne. Météo France maintient son risque d'avalanche très élevé dans les Alpes pour toute la journée. Sur la moitié nord, on est encore sous les nuages avec quelques pluies qui circulent en Manche, qui vont déborder cet après-midi vers la Normandie, les Hauts-de-France, vers le Grand Est et vers l'Île-de-France dans la soirée. Plus d'éclaircies sur les pays de la Loire, le centre-val de Loire, la Bourgogne et la Franche-Comté, et de la douceur pour tout le monde. 12 degrés cet après-midi à Brest, 14 à Paris, La Rochelle et Mulhouse, 17 à Toulouse et 22 à Perpignan.
Patricia Charbonnier, merci d'écouter France Info. Il est 6h30.
France Info. Jean-Christophe Martin.
9 départements de la moitié ouest de la France restent ce matin en vigilance de Météo France pour les crues, dont 3 toujours en rouge, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. Parmi les conséquences des inondations, les difficultés d'accès aux soins pour les personnes malades qui reçoivent des infirmiers à domicile. Exemple pour France Info à Saintes, en Charente-Maritime, avec Yvan Planteil.
Comme il est impossible de se rendre chez Roland, eh bien Sandrine, son infirmière, va l'assister à distance depuis sa voiture pour surveiller sa glycémie.
Ouais, Sandrine.
Bon, comment ça va ce matin?
Ben, ça va, je suis pas levé.
Est-ce que vous avez fait votre glycémie pour ce matin?
Ah ouais.
Et hier soir, on était à combien?
0,67.
Donc on va pas changer la dose.
Ok, pas de problème.
Bon, ben je vais vous souhaiter bon courage.
Merci, vous aussi. À demain.
C'est presque de la téléconsultation.
On ne connaissait pas encore le télétravail, mais ça y est, on comptait.
Frédéric, quant à elle, a 30 patients à voir ce matin-là. Et pour se rendre chez certains, il faut marcher en équilibre sur des planches surélevées au-dessus de l'eau.
C'est bon, vous êtes arrivé?
Je cherche ma lampe torche, parce qu'il n'y a plus de lumière dans les escaliers.
Bonjour. Frédéric arrive chez Brigitte, elle l'aide à enfiler ses bas, vérifie sa tension et prend aussi des nouvelles.
La dernière fois que je suis sortie, c'était mardi. Tant que j'ai le chauffage et la lumière, je suis bien parce que j'ai la visite. J'ai mon infirmière qui vient venir.
Les services sociaux de la ville ainsi que la Croix-Rouge appellent aussi les personnes malades isolées pour leur proposer de leur apporter des médicaments si besoin.
Yvan Planteil à Sainte pour France Info. L'alerte enlèvement déclenchée hier matin a été levée hier soir. Le nourrisson de 6 semaines enlevé par ses parents à Épinay-sur-Seine jeudi a été retrouvé après avoir été déposé dans un hôpital de Lille, déposé par une femme non identifiée au visage dissimulé par un voile et un masque chirurgical. Les parents du bébé, son frère de 18 mois et sa sœur de 2 ans et demi sont toujours recherchés. 2 membres de la famille avaient été placés en garde à vue hier matin en raison, selon le procureur, de soupçons sur l'assistance qu'ils auraient pu apporter aux parents pour l'enlèvement des enfants et pour leur fuite. La coordination rurale profite du salon de l'agriculture pour maintenir la pression. Pour la première journée du salon hier, le deuxième syndicat agricole a joué au chat et à la souris avec Emmanuel Macron. Il a d'abord annoncé un boycott des rencontres avec le chef de l'État avant d'accepter un tête-à-tête. Et aujourd'hui, le syndicat veut recommencer avec le début des visites des responsables politiques. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal est notamment attendu et la coordination rurale promet une journée en jaune. Sur place, pour France Info, Édouard Marguier.
La coordination rurale veut être visible.
Des bonnets jaunes un peu partout dans le salon qui mettent un peu la pression.
François Valrette est le secrétaire général de la CR. Ce salon de l'agriculture est un moment important en vue de 2027, selon lui.
Les potentiels futurs candidats déclarés ou non viennent voir les syndicats agricoles pour élaborer leur programme. Donc on va les rencontrer à condition que ce soit réellement des défenseurs de l'agriculture.
Parmi les revendications, il y a la politique agricole commune, les aides européennes pour les agriculteurs. Le futur budget de la PAC pour la période 2028 à 2034 est en discussion. Bruxelles veut le diminuer. La France touche aujourd'hui 9 milliards d'euros par an. Il est impossible de perdre un centime. pour le syndicaliste également céréalier dans l'Allier.
Si on veut une agriculture française qui soit performante, alors non seulement pour produire, mais aussi pour rémunérer ses agriculteurs, il faut que le responsable politique prenne clairement en compte que la PAC, c'est un élément important.
Une manifestation donc, mais sans débordement, assure-t-il.
Non, nous sommes sages, nous sommes très très sages. On se montre, hein, on fait du bruit, mais non, on casse rien.
Les organisateurs appellent au calme. Le salon est un lieu de débat, pas de combat, répète-t-il.
Édouard Marguier au Salon de l'agriculture pour France Info. À deux jours de la date symbolique des 4 ans de guerre en Ukraine, des explosions ont secoué la capitale Kiev tôt ce matin. Après le déclenchement d'une alerte aérienne, la capitale visée selon les autorités par des missiles balistiques, l'alerte a été ensuite étendue à tout le territoire ukrainien. Vous écoutez France Info, il est 6h35 et c'est l'heure du sport.
France Info Sport avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. Rendez-vous sur FreePro.com.
C'est le dernier jour des Jeux Olympiques de Milan-Cortina et la quinzaine se referme avec une dernière médaille, l'une des plus prestigieuses, celle du hockey sur glace, très attendue, surtout cette année avec le retour des stars de la NHL, la grande ligue nord-américaine qui était absente depuis 2014. En finale, c'est l'affiche de rêve cet après-midi entre les États-Unis et le Canada. Le duel espéré par tous les fans de hockey entre les deux plus grosses équipes de cette discipline. Ce sera à Santa Giulia à Milan et les Canadiens ne sont là que pour une seule chose, la médaille d'or. À Milan, pour France Info, Xavier Monferrand.
C'est comme si rien ne pouvait leur arriver. Pourtant, les Canadiens ont bien failli ne pas être là. Par deux fois, ils auraient pu passer à la trappe en quart de finale face aux Tchèques qui les ont fait douter, puis la Finlande en demi-finale. Mais à chaque fois, le Canada a repris le dessus comme si ça ne pouvait pas en être autrement. Pour l'attaquant Mark Stone, c'est l'or ou rien.
Oui, nous ne sommes là que pour la médaille d'or. L'or et c'est tout. On est arrivé jusque-là en finale pour ça. Vous savez, le Canada mange d'or et respire hockey. C'est un grand moment pour notre pays, pour tous ceux qui ont la feuille d'érable sur leur maillot ou dans leur cœur. C'est tout pour nous.
Depuis le début du tournoi olympique, les Canadiens impressionnent par leur détermination et par leur jeu, tout simplement. Les Français s'en sont rendus compte. Ils ont encaissé 10 buts face à la marée rouge, mais n'en gardent pas un si mauvais souvenir, à l'image de l'attaquant des Bleus, Jordan Perret.
C'est l'une des meilleures équipes qu'ils ont jamais eues, que des superstars. Pour nous, c'était un réel plaisir de jouer contre eux, c'était dur. Je pense qu'ils ont, ils sont un step au-dessus quand ils se mettent à jouer. Ouais, je les vois en favoris. Après, les USA aussi sont pas mal, solides. Très solide.
Les Canadiens sont en mission aux Jeux Olympiques parce que le hockey, pour eux, c'est plus qu'un sport, c'est une métaphore de leur sort, celui d'un pays divisé entre anglo et franco et qui ne fait qu'un derrière son équipe, comme l'explique la grande voix du hockey au Québec, Pierre Houde.
Plusieurs croient encore qu'il n'y a qu'une chose qui unit le Canada du Pacifique à l'Atlantique, c'est le hockey. Alors, oui, elle unit le pays et cette équipe.
Et face aux États-Unis, ce n'est pas un match comme un autre pour les Canadiens et pour Pierre Houde, particulièrement en ce moment où l'administration américaine lande plus que jamais sur le territoire de son voisin.
Bien sûr que c'est en toile de fond, c'est très clair. Mais vous savez, c'est pas que politique non plus. C'est aussi un petit coup de coude aux grands voisins. Hein? Oui. Au fil des années, les Américains sont devenus les grands rivaux.
Et les États-Unis, eux, attendent un titre olympique depuis 46 ans, une éternité. Et ce fameux miracle sur glace, quand lors des JO de Lake Placid, les amateurs américains ont vaincu la terrifiante équipe soviétique, grande favorite à l'époque.
Xavier Monferrand à Milan pour France Info. Le coup d'envoi de la finale du hockey sur glace à 14h10 à vivre en direct sur France Info avant la cérémonie de clôture de ces Jeux d'hiver ce soir à Vérone. Et à 7h20, le rugby avec le troisième match du 15 de France dans le tournoi des Six Nations. Après deux victoires face à l'Irlande et au Pays de Galles, les coéquipiers d'Antoine Dupont affrontent cette fois l'Italie. L'occasion de faire un pas de plus vers un possible grand chelem face à un adversaire qui a réussi un bon début de compétition. À Lille, où le match va se jouer cet après-midi, Vincent Pellegrini.
Pour l'instant, tous les voyants sont au vert pour les Bleus. Deux victoires très convaincantes assorties du point de bonus offensif, un jeu séduisant de l'efficacité de la discipline. Conséquence logique, les commentaires sont élogieux, mais le sélectionneur Fabien Galthié reste mesuré.
On est des Latins et on se méfie énormément des louanges. Tant mieux si on a réussi à produire pour le moment des performances qui font plaisir, que l'équipe est insensée. On est très heureux pour le rugby français. En tout cas, dès qu'on parle bien de l'équipe de France, c'est un écho formidable pour le développement du rugby français. Pour le reste, ça fait 7 ans que je suis à ce poste-là et je sais que c'est assez manichéen. Soit c'est très très bon, soit c'est l'inverse. Les joueurs en ont conscience, ça fait partie de notre quotidien.
Un succès face à l'Écosse, une courte défaite en Irlande le week-end dernier, au terme d'une belle prestation. L'Italie possède aujourd'hui des arguments à faire valoir, estime le troisième ligne des Bleus, François Cross.
C'est une équipe qui est en pleine confiance. Ils sont pas loin de gagner en Irlande, donc on sait à quoi s'attendre et on s'attend à un gros combat ce week-end. Il n'y a plus de surprise, les Italiens maintenant, voilà, ils arrivent avec une grosse conquête. Et les Italiens, non, ça fait plusieurs années qu'ils montent en puissance et forcément qu'on les craint.
La Fédération française a donc décidé de quitter le Stade de France pour ce troisième acte du tournoi et choisit Lille pour accueillir cette rencontre. Jean-Marc Clermet, le vice-président de la Fédération, explique ce choix.
Il y a d'abord une volonté politique qui est d'essayer de se déplacer le plus possible en région, de façon à ce que nos équipes de France, de façon générale, puissent s'ouvrir à l'ensemble de la population, de nos supporters en France, et pas que à Paris. Et la deuxième raison, je dirais, c'est aussi que nous, on essaye de développer le rugby partout sur le territoire. C'est un axe de développement important, aller chercher des nouveaux licenciés à des endroits où le rugby n'est pas forcément historiquement installé.
Cette délocalisation est une réussite sur le plan populaire. Ce match se jouera à guichet fermé. Les 50 000 places du stade Pierre-Mauroy ont trouvé preneur.
Vincent Pellegrini à Lille pour France Info. Coup d'envoi de ce France-Italie à 16h10. Match à vivre en direct sur France Info. L'armée française se prépare à la guerre avec en ce moment un exercice d'une ampleur exceptionnelle. C'est le choix de France Info dans les prochaines minutes au cœur du dispositif à bord du porte-hélicoptère Le Tonnerre. On revient d'abord sur les suites de la marche pour Quentin hier à Lyon.
France Info, 6h-7h, Jean-Christophe Martin.
Il est 7h-20, deux personnes au moins ont été signalées en train de faire des saluts néo-nazis pendant la marche officiellement organisée pour rendre hommage à Quentin Derenck, le militant identitaire roué de coups le 12 février à Lyon par des militants d'ultra-gauche. La préfecture annonce qu'elle va saisir la justice. Julie-Marie Lecomte était à Lyon pour France Info hier. Alors au-delà de ces constats, le ministre de l'Intérieur remercie la préfète et les forces de l'ordre pour la gestion de ce rassemblement, globalement sans violence, conformément aux souhaits de la famille, de la victime et des organisateurs.
Une marée de portraits stylisés et léchés de Quentin Derenck sur fond bleu ou tricolore, des tulipes blanches distribuées aux participants. Avant que le cortège n'avance, deux militantes de Némésis, l'association féministe d'extrême droite présente elles aussi le 12 février devant Sciences Po, tiennent à remercier celui qu'elles tiennent désormais pour un héros.
Tu as répondu présent quand on a eu besoin de toi. Au nom de toutes les filles que tu as défendues jeudi dernier, nous te remercions, Quentin.
Ses grands-parents sont venus sous le coup de l'émotion. Taper sur une tête et taper quelqu'un qui est couché par terre, c'est un assassinat. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'il y ait une guerre civile?
Si on en arrive à se tuer et à se battre et à supprimer la vie de celui avec qui on n'est pas d'accord, je deviendrai même méchant. Je deviendrai un cateau pas gentil du tout.
Des femmes et des enfants aux côtés des blousons noirs et des crânes rasés, des têtes blondes et des cheveux blancs quand des figures de l'ultra-droite mènent le cortège et donnent de la voix. Pas de politique, promettait l'organisation. Les slogans sont bien d'extrême droite. Et la gauche est désignée comme l'ennemi. C'est bien une victoire politique qui est revendiquée.
On est en train de reprendre les rues de ce pays. On gagne par les urnes, mais aussi en assumant nos idées. Continuez de vous engager, de faire progresser la cause. Chaque pas vous rapproche de la victoire. Chaque pas nous rapproche un petit peu plus de l'accomplissement des idéaux qui dessinent Quentin.
Sur le parcours, quelques chants révolutionnaires s'échappent des fenêtres en signe de résistance.
Je suis triste et malheureux pour notre nation. Je m'inquiète pour notre République.
Ça fait peur, ça fait mal au cœur.
La consigne était de garder ses nerfs.
Allez les gars, on avance, s'il vous plaît, avance. On n'entend pas en provocation.
Et Julie-Marie Lecomte à Lyon pour France Info avec Jérémy Thuil pour les moyens techniques. Un exercice militaire d'une ampleur exceptionnelle. C'est le choix de France Info dans les prochaines minutes au cœur du dispositif sur le porte-hélicoptère Le Tonnerre. Et d'abord l'info en une minute.
France Info, 6h-7h.
L'essentiel de l'actualité à 6h43, c'est avec Pierre Boudias. C'est le premier titre, la coordination rurale qui promet des actions coup de poing au salon de l'agriculture.
Annonce du président du syndicat quelques heures après une rencontre tendue avec Emmanuel Macron dans les allées du parc des expositions. François Valara dénonce l'inaction du chef de l'État, notamment au niveau européen. Alerte enlèvement levée en Seine-Saint-Denis. Le nourrisson de 6 semaines, possiblement enlevé par ses parents, a été déposé hier dans un hôpital de Lille par une femme au visage dissimulé. Les recherches se poursuivent pour retrouver son frère de 18 mois et sa sœur âgée de 2 ans et demi. La France appelle à une réponse unie de l'Union européenne après la nouvelle offensive douanière de Donald Trump. Le président américain annonce de nouveaux droits de douane à hauteur de 15% au niveau mondial, taux maximal autorisé pour ces taxes d'une durée de 6 mois. Et puis le Paris Saint-Germain reprend sa place de leader de Ligue 1. Les joueurs de Luis Enrique s'imposent facilement 3-0 contre Metz, dernier du championnat. C'était hier. Ce soir à 20h45, Lyon tentera d'enchaîner une 14e victoire toute compétition confondue face à Strasbourg.
France Info.
7h moins le quart, l'heure du choix de France Info avec ses manœuvres militaires d'une ampleur exceptionnelle pendant 3 mois jusqu'à la fin avril. 12 500 soldats des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace se préparent à la guerre à travers la France. Orion 26, c'est le nom de l'exercice qui met en scène un pays agresseur venu de l'Est et un allié que Paris veut défendre en prenant la tête d'une coalition internationale. Scénario fictif mais crédible. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Avec Maëlle Larfassor, vous avez suivi le début des opérations, la reprise d'une portion de territoire tenue par l'ennemi à Saint-Nazaire.
Oui, ça ressemble un peu à un jeu de rôle dont voici le scénario.
Là, c'est un pays qui s'appelle Arnhem, c'est les côtes de France qui ont été envahies, donc on vient pour contrer cette invasion. Donc c'est un exercice très complexe dans lequel on voit l'ensemble des facettes d'une campagne militaire.
Et logiquement, ça commence dans les airs, puisque la première chose à faire, c'est de conquérir l'espace aérien pour pouvoir opérer en toute sécurité.
Mesdames et messieurs, la démonstration va démarrer dans quelques instants. Nous vous invitons à prendre place dans la tribune. Merci.
Alors là, il y a deux rafales qui passent juste au-dessus.
Le ciel est désormais maîtrisé. Les opérations au sol peuvent commencer.
Phase 2, les litreuillages. Je vois des soldats qui se laissent tomber d'une corde les uns après les autres. Pas loin, il y a un gros blindé brun, une couleur qu'on appelle brun terre de France. 6 roues motrices et un canon de 40 mm.
Je suis le contre-amiral Makaravouk. Le but, c'est de s'entraîner, d'être plus préparé à opérer dans des opérations complexes. On a vraiment fait jouer tous les moyens des armées, des différents services. Tout le monde est impliqué et doit travailler ensemble.
Ensemble, face à un ennemi qui ressemble beaucoup à la Russie.
C'est un scénario qui est fictif, mais réaliste.
Logiquement, l'exercice intègre les récentes transformations du champ de bataille.
Pour rester pertinent, il s'adapte et il évolue.
Le lieutenant de vaisseau, Anthony.
On a fait l'an dernier, à peu près au même endroit, un exercice amphibie. Il y avait dans la force à peu près une trentaine de drones. Aujourd'hui, là, pour Orion 26, c'est plus de 200 drones qui ont été utilisés, qu'ils soient de la marine ou de l'armée de terre.
Orion comporte aussi un volet cyber, puisque les armées doivent s'adapter à la guerre hybride contre les systèmes informatiques et les réseaux de communication. Et puis aussi un volet spatial. Les satellites ont un rôle stratégique dans la liaison entre le commandement et les unités sur le terrain.
Et cet exercice fait aussi intervenir la Marine nationale avec entre autres le déploiement du Charles de Gaulle et d'un porte-hélicoptère amphibie. Le Tonnerre, il était présent la semaine dernière dans le port de Saint-Nazaire. Vous avez pu, Isabelle, monter à bord de ce porte-hélicoptère.
Imaginez un géant des mers, 199 mètres de long et une hauteur vertigineuse.
La passerelle correspond au premier étage de la Tour Eiffel.
Son ponton peut accueillir 16 hélicoptères, dont sa soute, des véhicules amphibies capables de transporter et de débarquer des chars Leclerc. Mais avant de projeter les moyens lourds, ce sont les fusiliers marins qui investissent la plage. Et cette fois, il y a de la résistance.
On va vous faire une présentation, je vous laisse avancer.
Mais la particularité du Tonnerre, c'est qu'il est aussi un navire hôpital.
Toute l'équipe médicale va s'organiser pour cet afflux massif de blessés. Donc les plus graves vont arriver ici.
Sur les lits des figurants, l'exercice est le plus réaliste possible.
Nous avons deux blocs opératoires, radiologie conventionnelle échographie, scanner.
Le médecin en chef, Freddy Amar.
Donc tous les médecins militaires sont formés à la chirurgie de guerre.
Enfin, le tonnerre héberge l'état-major de l'opération.
Ce que je vous demanderai, c'est d'éteindre vos téléphones portables, tout simplement parce que c'est des endroits classifiés.
Les armées françaises s'entraînent à travailler avec leurs alliés.
Il y a plus de 7 nationalités avec des officiers qui viennent d'Australie, de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Italie, de Grèce et même du Brésil.
Bien sûr que c'est nécessaire. De toute façon, s'entraîner, ça rend meilleur.
Le capitaine de corvette, Barthélémy.
Accessoirement, aujourd'hui, on voit bien que le monde est secoué, remué. Donc on a fortement intérêt à s'y préparer. Évidemment, on se prépare à défendre la France et les Français, mais on espère tous la paix.
Orion 26 permet à la France de faire savoir à ses adversaires qu'elle est prête à une guerre de haute intensité. À une toute autre échelle, l'OTAN, elle aussi, met en œuvre cette année le même genre d'exercice.
Le choix de France Info, signé ce matin. Isabelle Labéry a retrouvé sur franceinfo.fr. Il est 7h10, dans 5 minutes, le billet science week-end de France Info. Les découvertes de Bill François et d'abord un nouvel épisode des Destins qui font l'info. Ces destins qui font l'info avec le rappeur Jul pour cette série pendant tout le mois de février. Il a été le chanteur le plus écouté en 2025 sur les plateformes francophones et même pour certaines pour la 5e ou 6e année consécutive. Dans ce 4e et dernier épisode, Solène Cressant et Shérif Bitelmadji nous racontent comment Jul est aussi un businessman averti.
Jul a son propre label et ça change tout.
Alors je me le fais quand je suis sur la scène. J'arrive en claquette dans le showcase. Comme si j'étais seul sur la terre. Comme si je n'avais jamais sommeil. Quelle vie que je mène.
Ces millions d'écoutes sur les plateformes, ces millions de vues sur ses clips, ces millions d'albums vendus, tout lui revient. Il crée d'or et de platine en 2015, un an après la sortie de son premier album. Référence à ses succès.
Plus besoin d'aller chez Lacoste. Depuis que je fais d'or et de platine. Et sur Twitter, je vois leur poste.
Jul utilise son label pour signer avec d'autres artistes, faire monter des talents. D'or et de platine devient aussi une marque de vêtements et de produits dérivés. Jogging à 50 euros, veste à 60. C'est le rappeur qui a toujours le dernier mot au sein de sa petite entreprise. Indépendance donc, protection aussi. Jul a confié ses affaires à 2 avocats pénalistes. Jul est tellement gentil qu'il est très protégé, confie un jour au journal Le Monde l'une de ses 2 scénographes du concert du Vélodrome. Sa mère gère l'administratif, son frère l'aspect promotion, ses ingénieurs sont, il les connaît depuis 2005. Jul sait s'entourer, sa communication est rodée, une télé et un journal par an, c'est tout.
Je vais leur casser la tête, fils.
Il se dit quand même paranoïaque.
Je vais leur casser la tête, fils, y'a rien qui m'arrête. L'esprit vient de la barrette, la moula dans la cigarette. Vénère au démarrage comme Sterling ou Marez. Moi, c'est Jul, j'envoie la race, le sud dans la RS.
Peut-être cela remonte-t-il à l'époque où il était chez Liga One Industries et qu'il a voulu partir. Nous sommes en 2015, il parle à ses fans sur Instagram.
Bon, on va vous expliquer les causes du départ vu que personne ne comprend. Alors qu'il est, toute la France, elle croit que je suis riche. J'ai touché 0 euro pour l'instant de mes CD. J'ai fait ma décision, je veux partir. Je compte encore faire plein de sons. Pas grave, je reviendrai encore plus fort.
La rupture a été violente par réseaux sociaux interposés. Liga One Industries a même supprimé toutes les vidéos YouTube de Jul et donc les millions de vues à l'époque. Derrière ce label, il y avait 2 frères bien connus du milieu de la criminalité organisée. L'un d'eux sera même assassiné par des hommes à moto en 2014.
Piqué, pique, alcool et drame. Bourré, bourré, je fume et je plane. J'en ai, je check des fans. Elle est pleine sous les rébans.
Mais Jul cultive l'image d'un rappeur au grand cœur.
À chaque fois, tu vois, moi je passe dans les quartiers. Je fais plaisir un peu à tout le monde, tu vois. J'essaie de... Je fais passer un peu les baskets, un peu les trucs et je... Passer dans les quartiers pour faire les clips.
Et pendant la crise du Covid, Jul a versé plus de 300 000 euros à la Fondation des Hôpitaux de France, mélange de dons et de ventes aux enchères. Pourtant, Jul ne semble pas échapper à l'emprise du grand banditisme sur le milieu du rap, comme l'ont révélé les auteurs du livre « L'Empire, enquête au cœur du rap français » aux éditions Flammarion. Jul aime raconter qu'il s'est enfermé des mois dans une cabane pour produire son album « My World » en 2016, sauf que le lieu est archi-secret, archi-bien gardé par sa famille corse, car il veut échapper à ce moment-là aux anciens de Liga One.
« Tu sais rien, tu ramènes ta fraise. »
T'as vu, je rigole, mais je suis pas très heureux.
Les dizaines de millions d'euros qui sont en jeu autour de l'artiste attirent aussi les grands patrons. Jul connaît bien celui de la CMA-CGM, Rodolphe Saadé, l'un des hommes les plus riches de France, qui a bâti son empire à Marseille. En juin 2024, il lui prête sa tour pour un clip autour de sa marque d'or et de platine.
Plus tard, les masques qui tombent, je suis pas un voyou, j'espère que vous voyez.
Enfin, même si Jul a su prendre soin de sa team, se tenir loin du showbiz, le prix des places pour ses concerts de 2026 a augmenté en moyenne de 40% par rapport à l'année d'avant. Qu'importe, pour son premier concert au Stade de France et ses deux vélodromes, la demande a été trois fois supérieure au nombre de places disponibles. Jul a changé de catégorie, passé en moins de 10 ans du mépris au respect, de beauf à businessman bien organisé.
La jalousie, moi je connais ça. Ça porte ma life, ça me connaît pas. Ça me critique et je comprenais pas. La rue m'a tué, fait mon état. Je veux vivre tranquille comme à mon égard. La survie, moi je connais ça.
C'est Destin qui font l'info avec le rappeur Jul. Un grand récit de Solène Cressant et Shérif Bitelmajil. La saga complète à retrouver sur le site franceinfo.fr et sur l'appli Radio France. Il est 7h05. Le billet science, Bill François avec Renaud Blanc.
Le billet science à présent avec Bill François. Bonjour Bill.
Bonjour.
Une découverte étoilée, des chercheurs belges ont mis des sacs à dos à des étoiles de mer et cela leur a permis de résoudre un étrange mystère. De quoi s'agit-il ?
Il faut être très patient pour le remarquer, mais au fond de l'eau, les étoiles de mer marchent. Alors à la vitesse d'une dizaine de centimètres par minute environ, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour pourchasser leurs proies. Des proies très lentes, elles aussi, oursins, coquillages, etc. Mais jusqu'à présent, personne n'avait compris le fonctionnement de cette marche.
Et elles ne marchent pas tout simplement avec leurs pattes.
Alors non, ce ne sont pas leurs bras en étoile qui leur permettent de se déplacer, mais leurs podia, des centaines de petits pieds qui collent au sol grâce à une substance adhésive. Mais alors comment des pieds qui collent permettent d'avancer ? Ça, il a fallu toute une étude de l'Université de Mons en Belgique qui, en couplant des mesures fines de force d'adhésion, des expériences et des modèles physiques, vient de nous révéler une toute nouvelle façon de marcher, une grande première dans le monde vivant.
Donc Bill, elles font autrement que mettre un pied devant l'autre et recommencer ?
Eh oui, car les chercheurs ont découvert que la vitesse de l'étoile de mer est indépendante du nombre de pieds en contact avec le sol. C'est le temps d'adhésion de chaque pied qui fait avancer l'animal. Plus il est court, plus l'étoile de mer va vite. En quelque sorte, l'étoile de mer avance en collant et décollant ses pieds.
Et elle arrive à synchroniser le collage de centaines de pieds sans même avoir de cerveau ?
C'est incroyable et pourtant, c'est vrai. Et plus surprenant encore, elle arrive ainsi à s'affranchir de son poids. En faisant porter aux étoiles de mer des petits sacs à dos lestés, surprise, les biologistes se sont aperçus qu'elles marchaient alors tout aussi bien, même quand elles étaient très alourdies. Car au lieu de multiplier les points d'appui au sol pour compenser le poids, comme on le ferait nous, elles modifient juste la dynamique d'adhésion de leurs pieds, comme une sorte de danse sur claquettes. Et ça explique un étrange paradoxe marin. Qu'elles pèsent quelques grammes ou plusieurs kilos, les étoiles de mer marchent toutes à la même vitesse. Alors que chez tous les autres animaux, nous y compris, plus on est lourd, moins on marche vite. Cette découverte aidera dans le futur à développer de nouveaux robots ou des matériaux adhésifs intelligents. La science souhaite donc aux étoiles de mer de bonnes randonnées, avec ou sans sac à dos, car quand elles jouent ainsi les étoiles filantes, les scientifiques en restent scotchés.
Merci Bill, je ne regarderai plus jamais une étoile de mer de la même façon. Bill François et le billet science sur France Info. Et
Bill François avec Renaud Blanc, le billet science à retrouver sur franceinfo.fr. Dans un instant, la météo et un nouveau journal.
Comment serez-vous dans 10 ans ? Vous aurez peut-être changé de look ou de job ? Et pourquoi pas une moustache, tiens ? Mais une chose est sûre, votre Honda sera toujours là. Parce que les moteurs hybrides Honda sont garantis 10 ans. Alors on ne sait peut-être pas comment vous serez dans 10 ans, mais on sait dans quelle voiture vous roulerez. Eh oui, une Honda. Découvrez nos offres du moment et les conditions de garantie sur Honda.fr. Pensez à covoiturer.
Et avant le journal de 7h, la météo avec Patricia Charbonnier. La douceur qui s'installe, ça se confirme Patricia, mais avec une météo qui reste quand même contrastée.
C'est une météo printanière qui s'annonce aujourd'hui dans le sud après dissipation de quelques brouillards, en particulier ce matin dans le sud-ouest. Attention, le risque d'avalanche est toujours très élevé dans les Alpes. Grande douceur sur la moitié sud, sur la moitié nord. Le ciel est encore maussade, on a encore un temps humide avec quelques pluies faibles ce matin sur le quart nord-est. Une nouvelle dégradation pluvieuse qui circule en Manche, qui va déborder cet après-midi vers la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est et l'Île-de-France. Ce sera plus sec avec de belles éclaircies sur le centre-Val de Loire, la Bourgogne, la Franche-Comté et les Pays-de-la-Loire. Et donc les températures sont en hausse et ce n'est que le début. En milieu de semaine, on pourrait même, nous dit Météo France, se battre des records de douceur pour cet après-midi, jusqu'à 22 degrés à Perpignan, 17 à Toulouse et Grenoble, 15 à Bourges, 14 degrés à Paris et La Rochelle, 13 à Nancy et 12 à Brest.
Patricia Charbonnier, il est presque 7h, c'est le 7-10 de France Info et jusqu'à 10h avec Benjamin Fontaine. Bonjour Benjamin.
Eh bien bonjour Jean-Christophe, Patricia.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Pierre Boudias, Laura Dulieu sont aussi là pour l'info ce matin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Petite question un peu indiscrète, c'est vrai, est-ce que certains d'entre vous sont tatoués ici autour de la table?
Je le confesse.
Laura, Pierre. Bah Patricia,
non,
je suis étonné. Dans votre jeunesse. Ça fait mal ou pas de se faire tatouer?
Ça dépend où.
Un petit peu quand même.
Ouais, j'ai pas envie de savoir.
On n'y retournerait pas tous les jours.
Je vais arrêter là. Sachez en tout cas qu'aux États-Unis, la tendance aujourd'hui est de demander une anesthésie générale pour se faire tatouer. Sauf que ce n'est pas toujours une bonne idée et on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure avec notre expert santé. Ce sera à 7h20. Merci de vous réveiller avec France Info. On est dimanche et il est 7h.
France Info. 7h10h. Benjamin Fontaine.
Et à 7h, l'info...